97. Petit bout de temps. Eh bien, je suis encore là. Et puis avec une joie de me retrouver avec des têtes que je retrouve, que je reconnais, et puis d'autres que je ne reconnais pas, mais que je suis quand même néanmoins heureux de voir parmi nous. J'espère que le micro est suffisamment bien ajusté pour que tout le monde puisse entendre. Je n'ai pas toujours une voix performante, je vais essayer de parler assez fort. Voilà. Je vous invite à prier avec moi alors que nous commencions. C'est une grâce que de pouvoir se réunir ce matin, de pouvoir goûter à cette communion fraternelle, de raffermir ce lien qui fait de nous des frères et des sœurs, de pouvoir être suffisamment à l'écoute, de pouvoir compter sur ton aide pour que tu nous aides. Seigneur, fais taire en nos cœurs toute autre voix que la tienne. Amen.
Amen.
La lecture de ce matin, je la tire du livre de la Genèse au chapitre 11. Alors, je ne sais pas si c'est projeté, peu importe, je vais le lire de toute façon. Je le lis dans la version Nouvelle Bible selon NBS. Genèse chapitre 11, et je lis les 9 premiers versets. Voilà. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partie de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Alors, faisons des briques, cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. » Ils parlent tous le même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel dissémina sur toute la surface de la terre. Alors, comment imaginer que Dieu ait besoin de descendre pour voir ce qui se passe sur la terre? Comment ai-je imaginé la construction d'une tour qui toucherait le ciel? Qui plus est, que ces projets humains de bâtir de telles villes puissent émouvoir à ce point le Créateur de l'univers. Et que vient faire cet épisode, justement, après le chapitre 10, alors je ne l'ai pas lu, mais vous avez sans doute entendu parler, dans ce chapitre 10, on apprend que la ville de Babel existait déjà, et que les descendants de Noé étaient déjà répartis dans différents pays, chacun selon sa propre langue, et ce d'une manière vraiment bien organisée. Évidemment, l'emploi du langage figuré est sans doute à prendre en compte. Mais quel est le rôle de ce récit? Il y en a sans doute plusieurs, mais je retiens que plusieurs spécialistes ont souligné le caractère polémique de ce récit. Polémique contre les croyances des peuples de l'Antiquité, dont on a justement quelques traces. Par exemple, les archéologues parlent de ces tours immenses qui sont apparues dans la région à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. On parle des ziggourats, ça c'est un mot un peu rigolo, qui vient de l'acadien, pour désigner un peu l'expression des croyances, des religions locales. Alors quoi qu'il en soit, même si la formulation peut surprendre, il y a un contenu très parlant pour nous. L'intérêt de ce récit consiste dans le point commun qu'il présente avec notre situation aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie de l'Église, où l'on construit, au sens propre, au sens figuré. Je parlerai d'abord du projet de ces hommes. Que dire de ce projet? Il consiste à construire une ville, organiser une vie sociale. C'est sans doute la solution idéale pour simplifier une vie collective, ainsi que pour se défendre des agressions. L'union fait la force. Et je crois que ce désir de construire ensemble est chose légitime, bien sûr. Pourquoi une tour? La réponse nous est donnée dans le texte. Pour atteindre le ciel. Alors, dans l'Antiquité, comme je disais, il y a même des tours. Elles étaient des temples dédiés au Dieu du ciel. Alors, quand on dit Dieu du ciel, ce n'est pas à comprendre comme le Dieu de la Bible, évidemment. Mais c'est quand même à prendre comme le témoignage d'un besoin de Dieu évident. On a dit souvent que les tours, c'était un témoignage d'orgueil, orgueil humain. On le voit dans toutes les constructions qui ont marqué l'histoire. Ce qui est vrai, les textes de l'Antiquité décrivent ces tours comme des pyramides à étages qui pouvaient dépasser jusqu'à les 100 mètres de hauteur. Bien sûr, c'est sans doute beaucoup d'orgueil là-dedans, mais je crois que c'est un jugement incomplet qui ignore un peu ce qu'est la nature humaine. Parce que dans ces entreprises, il peut y avoir une dimension spirituelle qu'il ne faut pas exclure. Dans les projets lui-même de la tour, du nom aussi, je voulais parler. Pourquoi se faire un nom? Se faire un nom, c'est se donner une identité commune, l'identité d'un peuple, d'une cité. Parce que l'appartenance à un groupe, ça a des avantages, sans parler de se défendre contre les agressions extérieures. Alors, une identité commune, c'est quelque chose qui lie les membres d'un groupe pour un même sort, pour une même monnaie, par exemple, globalement pour raison de valeur et pour une meilleure sécurité. Alors, tout un tas de choses dans ces projets qui valent bien qu'on fasse l'effort de vivre ensemble et de chercher à faire des choses en commun. Et dans le même temps, on peut constater que c'est efficace. L'union fait la force. Et on peut admirer cette motivation, motivation de ces gens-là, dont le génie créatif apparaît, puisqu'ils se débrouillent dans une région où justement il n'y a pas de pierre, ou peu. Alors là, ils n'ont pas de pierre, ils utilisent l'argile et le bitume à la place des pierres, puisqu'on est dans la région du Golfe. L'entreprise donc semble tenir la route, mais Dieu l'arrête. Pourquoi ? La tour, on vous dit, au moins en partie, témoigne du besoin de Dieu. Mais en même temps, elle le limite dans des limites très étroites. Je crois qu'il faut se rappeler les précautions qui sont prises lors de la dédicace du premier temple de Jérusalem. Si vous vous souvenez, David, le roi David, voulait construire un temple. Il n'a pas pu le faire. C'est Salomon, son successeur, son fils et successeur, qui a organisé cette construction. Et au moment de la dédicace, dans sa prière, le roi Salomon disait ceci: Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Dieu est grand. On a chanté. Tout en construisant le temple, donc Salomon était conscient que Dieu ne se limitait pas à un lieu. Ne se limitez pas à Jérusalem. On ne peut pas enfermer le Seigneur dans un lieu. Ce serait une manière de l'imaginer à son service. Au sujet du nom qu'ils veulent se faire, on le sait bien, l'identité collective est parfois quelque chose de délicat à manœuvrer. Toujours des risques d'excès. Mais il y a plus important encore, et je dis dans notre récit, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. Voilà, ni plus ni moins, un refus de ce que Dieu voulait. Dieu qui invitait les hommes à se multiplier et à remplir la terre. C'est quelque chose de flagrant dans cette volonté humaine d'ignorer l'intention de Dieu. Quant à ce mot d'ordre unitaire, allons, c'est une manière de dire nous sommes ensemble et nous le restons, je trouve qu'il résonne d'une manière un peu étrange, justement, à cet endroit où il se trouve, à la suite du chapitre 10, nous sommes au chapitre 11, juste après des longues généalogies, des généalogies sur lesquelles on passe à toute vitesse, parce qu'il y a des noms qu'on n'arrive pas à prononcer, et c'est une mémoire, ça n'en finit pas, mais ce sont des listes sur lesquelles il y a des noms, où chaque individu est nommé, situé dans chaque tribu, donc à qui est donnée une certaine importance. Et puis juste après, il y a une union quasi fusionnelle, au chapitre 11. Et là, il y a un contraste saisissant. Peut-être une manière de voir que, eh bien, après l'importance qui est donnée à des individus dont on cite le nom, eh bien, il y a quelque chose d'un peu fusionnel, avec peut-être le risque d'un poids un peu lourd pour ceux qui ne vont pas marcher dans la combine et qui risquent de se sentir à l'écart. Alors, Dieu intervient, juste un mot, sur l'objectif que Dieu se donne. Il arrête tout. Alors, descendons, dit-il. Il emploie les mêmes mots, le même mode d'expression que les hommes. Alors, bâtissons. Probablement une ironie de l'auteur. Le projet humain n'entre pas dans son intention, mais je trouve cette réponse de Dieu, cette réaction, très intéressante, parce qu'elle me semble être là plus pour éviter un malheur supplémentaire que pour punir les infidèles. Le bien de l'homme, le bien de l'humanité n'est pas justement de tomber dans quelque chose de fusionnel. Justement, allez, croissez, multipliez, remplissez la terre. C'est le chapitre 2 de la Genèse. La dispersion voulue par Dieu est la meilleure des choses pour les hommes concernés. Au besoin exprimé ici, je crois que Dieu a répondu, et me semble-t-il, de la meilleure manière. Alors à présent, que dire de la manière dont Dieu répond à nos besoins à nous ? Quel est le ressort qui pousse le personnage à agir de la sorte dans le Genèse 11 ? Je crois qu'on peut dire, à défaut de la peur, en tout cas, le désir de ne pas perdre ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont construit, ou ce qu'ils vont construire, ou même le désir de ne pas perdre leurs habitudes, leur mode de vie, leurs coutumes. Bien sûr, la prudence selon laquelle il vaut mieux se rassembler pour faire un pas face aux adversités, c'est quand même quelque chose de normal. Mais quand même, lorsque ce désir est poussé trop loin, eh bien, ça ne peut plus marcher. Comme dans beaucoup d'autres lieux, et ce depuis toujours, il y a cette recherche d'un sentiment de sécurité qui peut faire oublier ce que Dieu veut. Même si on lui consacre des tours immenses pour se rassurer. Alors, des tours au sens propre, au sens figuré. Justement, à notre niveau, et même dans notre vie d'Église, pour trouver Dieu, pour trouver son soutien, alors je le dis de toute façon dans un bagage figuré, nous n'avons pas de tour à construire. Nous n'avons pas à nous élever vers lui. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. C'est lui qui s'est donné en Jésus-Christ. Ainsi, le risque nous est évité de croire que nous pourrions le trouver par nos propres moyens. Et le risque est aussi évité de croire que nous pourrions le cantonner à nos propres limites, nos convictions, nos conceptions. Quand au nom que les hommes cherchent à se donner, comment ne pas penser à cette identité de fils et de fille que Dieu donne à ceux et celles qui l'adoptent. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons un nom que nous ne nous sommes pas fait, c'est Dieu qui nous l'a attribué, donné. notant cependant que cette appartenance au peuple de Dieu ne réduit pas nos différences de langue, de culture, de sensibilité. Justement, la Pentecôte n'est pas un retour à avant Babel. L'Esprit Saint a laissé les apôtres s'exprimer dans des langues différentes. Nous ne sommes pas dans un système fusionnel dans lequel tous doivent se ressembler, dans lequel tous doivent être absolument d'accord, surtout. Et où ceux qui ne marchent pas tout à fait dans le système risquent de se sentir un peu à l'écart. Ce qui unit l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ et rien d'autre. Alors, à nous d'entretenir cette unité. Quelques mots pour terminer maintenant. Je viens de dire que l'unité voulue par Dieu, c'est donc celle qu'il donne et non celle que nous créons. Alors, il faut donc rechercher toujours plus cette communion avec lui. Mais je crois qu'il faut aussi souligner, insister sur le discernement auquel ce texte de Genèse 11 nous invite pour nos projets, puisque nous avons des projets, nous sommes obligés de faire des projets. Dans le récit de Babel, je dirais que la confusion est possible parce que justement l'entreprise se présente sous des traits plutôt raisonnables. Elle répond à des besoins bien réels pour la vie sociale. Il faut bien s'organiser. Elle peut donner des gages de spiritualité. Elle peut donner du courage aussi. Le courage de ne pas se sentir seul, de se sentir aidé. Elle entraîne les gens dans un mouvement plutôt sain. Pourtant, comme aurait dit la pub, ça a la couleur de l'unité. Ça a le goût, ben, ce n'est pas cette unité que Dieu veut. En tout cas, ce n'est pas au niveau horizontal qu'elle doit se tenir. Alors, nous faisons des projets afin de répondre à des besoins. Les apparences peuvent sembler bonnes, mais sans la présence de Dieu, ce n'est pas tenable. Je retiens donc le point essentiel de notre récit, la volonté de Dieu selon laquelle les hommes doivent renoncer à rester exclusivement dans leur propre cercle, dans un circuit fermé, dans une sorte de ghetto, à n'avoir que des gens qui leur ressemblent. Ça fait partie aussi du projet que Dieu veut. Alors, on construit, en cherchant l'unité que Dieu veut. Mais c'est une unité qui n'est pas, je dirais, géographique. À Babel, cette dérive la refuse puisqu'il disperse. Même s'il donne l'unité, Dieu reste dans la diversité. Et cette unité n'est pas forcément où nous aimerions la trouver. En d'autres mots, et là je cite Jésus, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes néanmoins dans le monde. Et justement, Jésus envoie ses disciples dans le monde. Parce que pour produire son effet, le levain doit entrer dans la pâte et s'y mêler. Pour donner du goût, le sel doit se dissoudre, non pas dans un bocal de sel, mais dans la pâte. L'Église est un don que le Seigneur nous accorde, bien sûr. C'est un lieu de ressourcement, un lieu privilégié où l'on écoute sa parole en communauté, où l'on doit se sentir bien, qu'il ne faut pas déserter. Elle peut être un refuge bien utile parfois, mais elle ne nous dispense pas de vivre aux côtés des autres. Alors, dans les périodes faciles comme dans les périodes plus difficiles, je crois que je pourrais dire ceci, même si je ne suis pas le premier à le dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de peut-être cet état dans lequel les limites ne sont pas toujours où nous les croyons. Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas.